La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et 48 heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à 3 heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis en gare des Batignolles. Préparez tout pour demain soir. Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Caudebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme.
« Et après ?» fit l'inspecteur.
« Après ? Mais c'est pour demain.
Quoi ?»«
Le cambriolage, le pillage de mes collections. »
Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et, les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience
« Ah ça ! Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ?»«
Quelle indemnité, demandez-vous, pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»«
Pas un sou, fichez-moi la paix !»«
Fixez votre prix, je suis riche, extrêmement riche !»
La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard, qui reprit plus calme.
« Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler... »
« Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »«
Oh ! Il n'arrivera rien. »«
Eh bien, voyons, 3 000 francs, est-ce assez ?»
L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber.
« Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. »«
Ça m'est égal. »«
En ce cas... » Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de Lupin? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques?
Ma foi.
Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez! Qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les 9 heures.
Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du Malaquais. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à 8h30, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les 4 portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses 2 auxiliaires, grands gars solides, au cou de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il le ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin... Il installa ses agents dans la galerie centrale.
« Pas de bêtises, hein? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi, du côté de l'eau. 10 mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. »
Il les enferma, emporta les clés et dit au baron
« Et maintenant, à notre poste. »
Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les 2 portes principales, et qui était, jadis, le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits.
« Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée. »
« Oui. »
« Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. »
Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira.
« Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra les côtes de rire. »
Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut.
« Vous entendez ?»«
Oui. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est moi qui ronfle. »«
Mais non, écoutez !»
Ah, parfaitement, c'est la corne d'une automobile.
Eh bien?
Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai. Comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir.
Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son somme interrompu, et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn, radieux de joie, Ganimard toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit. Rien de suspect.
« Que vous avais-je dit, monsieur le baron ? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. »
Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbés, les bras ballants, les deux agents dormaient.
« Tonnerre de nom d'un chien !»
grogna l'inspecteur. Au même moment, le baron poussait un cri.
« Les tableaux ! La crédence !»
Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés ou pointés, les clous ou pendés, les cordes inutiles. Le Watteau disparu, les Rubens enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux.
Et mes candélabres Louis XVI, et le chandelier du régent, et ma Vierge du XIIe.
Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres. Tout cela, pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié. Et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres ? Fermées. Les serrures des portes ? Intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique.
Arsène Lupin. Arsène Lupin,
murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents, comme si la colère enfin le secouait, et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point.
« Diable ! Est-ce que par hasard ?»
Il se pencha sur eux et, tour à tour, les observa avec attention. Il dormait, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron
« On les a endormis. »«
Mais qui ?»«
Et lui, parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien. »
« En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. »«
Rien à faire. »«
Mais c'est abominable, c'est monstrueux. »«
Déposez une plainte. »«
À quoi bon ?»«
Dame, essayez toujours. La justice a des ressources. »«
La justice ? Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez, en ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose, vous ne bougez même pas.
Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique.
Alors je dois renoncer à mes tableaux, à tout. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix.
Ganimard le regarda fixement.
Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas ?
Non, non, non. Mais pourquoi ?
Une idée que j'ai.
Quelle idée ?
Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi, si vous voulez que je réussisse.
Il ajouta entre ses dents.
Et puis, vrai, je n'ai pas de quoi me vanter.